Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La gestion de l'eau n'est pas seulement un enjeu de santé publique au Moyen-Orient, c'est aussi souvent la cause de conflits locaux ou régionaux, quand elle n'est pas elle-même parfois prise en otage, comme par exemple dans le conflit israélo-palestinien. À Gaza, la situation hydrique est particulièrement délicate, et pas seulement parce que la principale nappe souterraine d'alimentation en eau potable est partagée avec les Israéliens. Aussi, la prochaine mise en service d'une station d'épuration dans le nord de la bande de Gaza pourrait marquer un net progrès dans ce domaine. C'est en tout cas ce que nous dira une représentante de l'Agence française de développement qui finance pour près d'un tiers la réalisation de ce projet. Avec les observateurs de France 24, nous irons en Syrie où deux jeunes ingénieurs ont mis au point un robot ambulancier pour secourir les victimes sans souci des snipers, et aussi en Arabie Saoudite où désormais il ne fait pas bon vivre lorsque l'on est originaire du Qatar. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
La question de l'eau est centrale au Moyen-Orient, où elle a toujours été appréhendée comme une ressource rare et pour ainsi dire sacrée. La symbolique de l'eau a notamment nourri les systèmes de croyance des Hébreux comme des Arabes, et dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote, l'historien grec, qualifiait l'Égypte de « don du Nil », faisant ainsi le lien entre la civilisation égyptienne et le grand fleuve qui la favorisait. De fait, si l'eau est plutôt abondante dans cette vaste région, elle est tout aussi inégalement répartie, ce qui en fait une source permanente de conflits. Bonjour Stéphanie Léronas.
Bonjour.
Responsable adjointe de la division eau et assainissement à l'AFD, l'Agence française de développement. Avec vous, nous parlons de la construction d'une station de retraitement des eaux dans le nord de la bande de Gaza, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. C'est une région qui, semble-t-il, en a grand besoin.
Effectivement, la bande de Gaza est située au-dessus d'une nappe qui est peu profonde, avec de l'eau qui est relativement facilement accessible, mais qui malheureusement est surexploitée depuis de nombreuses années, ce qui la rend globalement impropre à la consommation. On constate des taux de salinité de la nappe extrêmement élevés. L'eau devient donc un enjeu de taille dans ce petit territoire où 1,7 million de personnes habitent. Au-delà de l'eau, on a également les problèmes de la collecte et de l'épuration des eaux usées, puisque 70% des personnes sont connectées à des réseaux d'assainissement. Donc les eaux usées sont collectées, mais sont globalement très très mal traitées dans la bande de Gaza, puisque nous avons 3 stations d'épuration, une à Rafah, dans le sud de la bande, une à Gazaville, au centre, et une à Bethlaïa, au nord. Et ces stations sont sous-dimensionnées, ne fonctionnent pas bien. Et donc, on a des eaux usées qui sont globalement rejetées dans le milieu naturel.
Le problème, c'est cela, hein, c'est que les eaux qui sont mal retraitées ou pas du tout retraitées repartent dans la nature. Et donc, là, il y a urgence.
Effectivement, parce qu'elles repartent de la nature de plusieurs manières. Soit elles se déversent directement dans la mer Méditerranée, donc à côté des plages où se baignent les personnes, ou alors là où les pêcheurs vont faire leur pêche quotidienne, donc deviennent un problème de santé publique, ou alors se rejettent dans de vastes lagunes. Certains lacs d'effluents peuvent atteindre jusqu'à 30 hectares, donc et constituent de véritables dangers et bombes sanitaires pour les populations avoisinantes.
Alors, quel est le but de cette nouvelle station d'épuration? Bon, doublée, on a compris celle qui existe actuellement, mais que faire après des eaux qui seront retraitées par cette station?
Alors, dans le nord de la bande de Gaza, on était dans une situation un petit peu apocalyptique. En 2005, donc, on avait une station existante qui s'appelait la station de Bethlaïa, qui recevait les eaux usées de 250 000 personnes, ce qui représente la population du nord de la bande. Cette station avait été construite en 1977 par les Israéliens, était très sous-dimensionnée et le résultat a été la constitution d'un grand lac d'effluents non traité qui a atteint 35 hectares en 2005 et qui faisait l'objet de digues d'une dizaine de mètres en sable et donc très fragile. Le grand risque qui en découlait était le risque de rupture de ces digues et l'inondation des populations qui étaient en aval.
Et c'est ce qui s'est produit en 2007.
Une partie des digues se sont effectivement détruites et plusieurs personnes ont trouvé la mort dans ce triste accident. Donc l'objectif du projet, qui est donc financé par la Banque mondiale, par l'AFD, mais également par l'Union européenne, par les coopérations suédoises et belges était de construire une nouvelle station d'épuration qui soit performante et qui permette de traiter l'intégralité des eaux usées de la zone.
Alors, où en êtes-vous de ce projet aujourd'hui ?
Alors, ce projet aujourd'hui est sur le point d'être terminé. Donc, c'est un projet qui a commencé en 2005. Il se terminera donc, a priori, en juillet 2014. On espère une mise en service en juillet. On a eu quelques difficultés qui sont liées vraiment à la situation politique de la zone et notamment pour l'importation du matériel ou la sécurité des personnes puisqu'il fallait mobiliser des entreprises internationales et des bureaux d'études internationaux. Il reste encore un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'est l'alimentation électrique de cette station. Donc, des négociations sont en cours entre les Israéliens et les Palestiniens pour alimenter la future station d'épuration. Pour
c'est
le moment,
le
on est toujours dans les tractations. Il y a quand même 10 mégawatts nécessaires pour le fonctionnement de la station. Il y a également des solutions par panneaux solaires qui sont à l'étude. Le deuxième grand enjeu est la réutilisation des eaux usées traitées. Comme vous le disiez, l'eau est une ressource rare et chère dans cette région. Donc, l'un des gros objectifs de l'autorité palestinienne de l'eau est de pouvoir réutiliser les eaux usées une fois retraitées pour l'agriculture. Et le troisième enjeu, c'est de faire en sorte d'avoir une exploitation qui soit durable de cette infrastructure et donc de faire en sorte d'avoir un opérateur qui puisse exploiter de manière correcte d'un point de vue technique et financier une infrastructure qui est somme toute d'un point de vue technologique assez avancée.
Alors, notons que dans la bande de Gaza, il y a donc cette fameuse nappe souterraine dans laquelle les habitants de Gaza peuvent pomper comme ils le souhaitent. Là, ils ne sont pas limités, donc ça c'est un intérêt certain pour la population. En revanche, la situation en Cisjordanie est vraiment très différente.
En effet, autant dans la bande de Gaza, le problème est essentiellement un problème de qualité d'eau, autant en Cisjordanie, le problème est un problème quantitatif, puisque la Cisjordanie repose sur des ressources en eau qui sont profondes, des nappes, qui sont pour la plupart partagées avec Israël. Donc, pour les Palestiniens de Cisjordanie, faire un forage en Cisjordanie nécessite l'accord préalable des Israéliens. Ces accords sont négociés au sein d'un comité spécifique qui a été mis en place dans le cadre des accords d'Oslo, qui s'appelle le Joint Water Committee et qui est évidemment soumis aux grands aléas politiques. La preuve en est que ce Joint Water Committee ne s'est pas réuni depuis 2010, bloquant toute infrastructure d'eau, mais également d'assainissement en Cisjordanie.
Donc on le voit bien que la situation de l'eau dans cette région, même sur des toutes petites zones, est vraiment très différente d'une région à l'autre.
Effectivement.
Merci Stéphanie Lerronas, responsable adjointe de la division eau et assainissement à l'Agence française de développement. J'ajoute que la pression sur les ressources hydriques au Moyen-Orient entraîne des conflits locaux ou entre voisins, un thème que développe ce samedi l'émission géopolitique de Marie-France Chatin en prenant exemple sur le Nil, objet de convoitise entre ses riverains.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous accueillons maintenant Sarah Grira, journaliste pour les Observateurs de France 24. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons immédiatement en Syrie, 3 ans après le début du soulèvement contre Bachar el-Assad, où le bilan est de 146 000 morts et on le sait, la guerre civile qui bat son plein. Pourtant, 2 jeunes Syriens ont décidé de mettre leur savoir-faire au profit d'une cause noble.
Ils s'appellent Ahmed et Bilal. Ils sont tous les deux ingénieurs en génie industriel, originaires d'Alep et vivent maintenant côté turc. Et ils ont mis sur pied Tina, un robot ambulancier muni de 2 bras mécaniques destiné à secourir les victimes des tirs de snipers. En effet, beaucoup de vidéos amateurs ont montré des scènes où des témoins tentent de secourir des victimes, mais ils sont à leur tour visés par des tireurs embusqués. Alors ce n'est pas encore gagné, les 2 ingénieurs ont besoin d'un dernier financement pour achever leur projet. Les groupes de rebelles sur le terrain exigent qu'un robot armé leur soit confectionné en échange de leur aide, ce à quoi se refusent les 2 amis qui insistent sur le caractère pacifique de leur démarche et leurs sollicitations auprès des ONG internationales sont malheureusement restées lettre morte. Mais Ahmed et Bilal ne perdent pas espoir et ils comptent bien aller jusqu'au bout de leur démarche. C'est une vidéo amateur qui a été publiée sur le net le dimanche 16 mars. Elle montre une discussion entre un conducteur qatari et l'employé d'une station-service dans la région d'Al-Ahsa, en Arabie Saoudite. Au moment de payer, le conducteur tend, comme à son habitude, un billet de 50 riyals qatari au pompiste saoudien, qui le refuse car il a reçu des instructions dans ce sens. En effet, depuis le 12 mars, les Qataris ne peuvent plus payer avec leur propre monnaie en Arabie Saoudite. Cet incident est donc révélateur d'une tension entre les deux pays, car l'Arabie Saoudite accuse le Qatar de soutenir financièrement et médiatiquement le mouvement des frères musulmans, notamment en Égypte.
Oui, le 6 mars dernier, on s'en souvient, le royaume wahhabite ainsi que les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont tous les trois rappelé leurs ambassadeurs à Doha. On termine par un petit détour au Maghreb et plus précisément en Libye autour d'un crime religieux qui pourtant n'a pas fait couler beaucoup d'encre dans le pays.
Cela se passe fin février à Benghazi. 7 travailleurs égyptiens coptes ont été enlevés et tués par des milices extrémistes à cause de leur appartenance religieuse. C'est la deuxième fois que des ressortissants de la communauté copte sont pris pour cible à Benghazi. En mars 2013, plusieurs dizaines d'entre eux avaient été séquestrés et torturés par des miliciens qui les accusaient alors de prosélytisme. Mais le plus choquant dans l'affaire, c'est que ce crime n'a pas fait beaucoup de bruit, en effet, en Libye, et les médias locaux ont peu relayé ce qui a été considéré comme un fait divers banal. Notre observateur nous expliquait en effet que la violence fait partie du quotidien des Libyens, surtout dans l'Est, où un crime chasse l'autre. Tous les jours, des civils, des policiers ou des militaires sont pris pour cible et les autorités sont totalement dépassées.
Merci Sarah Grira, journaliste pour les observateurs de France 24, que l'on peut retrouver sur le site observers.france24.com. Avec ses guitares et son oud électrique, Kamal Moussalam se produit ce samedi à Dubaï dans le cadre du Gulf Music Festival, aux côtés de Zaid Hamdan et Mai Walid, que l'on a écouté la semaine dernière. Le voici dans Out of My City, l'un de ses succès. Kamal Moussalam sera en concert mardi prochain au Al Bastakia à Dubaï.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Boutchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alexandre, la Syrie fait à nouveau la une des journaux arabes avec l'escalade de l'offensive militaire gouvernementale.
Oui, les titres sont « Les bombardements syriens poursuivent les réfugiés jusqu'au Liban ». Ça, c'est le titre d'Al-Haya. Et puis, Al-Shakrat, lui, titre « Le Nord-Liban touché par le feu syrien ». Et les journaux précisent que l'armée régulière de Damas a progressé sur plusieurs fronts grâce aux armes russes, tandis que l'Occident, lui, hésite à aider l'opposition, hésite à l'aider à cause des exactions des factions islamistes de la rébellion. Alors des factions qui, comme l'armée islamique d'Irak et du Levant, continuent à faire l'objet de reportages sur la terreur qu'ils font régner dans les territoires qu'ils contrôlent. Et puis, certains journaux évoquent les bombardements israéliens contre des positions syriennes en titrant « Le régime syrien est un lion contre son peuple et une autruche contre Israël ».
Et justement, à ce propos, Michel Paul, la presse israélienne pointe également un risque d'escalade militaire.
Oui, tension au nord et au sud, avec la découverte d'un tunnel entre la bande de Gaza et Israël. Alors pour Yediot Aharonot, il s'agit d'un tunnel de la terreur, c'est l'expression utilisée par le journal en manchette, un tunnel qui devait servir à enlever des soldats israéliens, mais si côté israélien on affirme que c'était un succès des services de renseignement, la presse israélienne rapporte la version palestinienne, le tunnel s'est effondré tout simplement en raison du mauvais temps. Et tension donc aussi au nord, Haaretz affirme que l'on est au bord de l'escalade, le journal estime que les choses à la frontière entre Israël et la Syrie peuvent très rapidement dégénérer et devenir incontrôlable. Marif, de son côté, fait état de ce qu'il appelle le piège du Hezbollah à la frontière syrienne. Et plusieurs journaux font remarquer que l'époque où cette ligne était considérée comme la plus sûre est désormais bien révolue.
Et toujours à la une, Michel, cette guerre des généraux.
Oui, c'est une affaire qui rebondit régulièrement en Israël depuis quelques années, avec pour protagoniste l'ancien ministre de la Défense, Ehud Barak, et l'ancien chef d'état-major, Gabi Ashkenazi. À l'époque, on avait même parlé de tentative de putsch. En tout cas, selon la presse, l'étau se resserre avec l'interpellation cette semaine de l'ancien porte-parole de Tzal et aussi d'un conseiller de l'ex-chef d'état-major. Ce dernier pourrait lui aussi être soumis à un interrogatoire, une affaire qui est suivie avec passion en Israël.
Beaucoup d'interrogations dans les journaux arabes, Alexandre Boutchanti, concernant le sommet arabe qui se tiendra la semaine prochaine au Koweït, un sommet qui pourrait être mouvementé.
Oui, tout à fait, même si la principale question à l'ordre du jour et comme toujours celle de Palestine et cette fois des menaces qui, selon la presse, pèsent de plus en plus sur la Jérusalem arabe. Mais en fait, la vraie question, celle qui domine en coulisses, c'est celle des suites du printemps arabe et notamment l'offensive diplomatique menée par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Bahreïn contre le Qatar. Alors des pays qui ont retiré leurs ambassadeurs de Doha, accusés d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Ils reprochent notamment au Qatar d'offrir un refuge aux frères musulmans qui sont interdits dans ces pays et d'utiliser la chaîne d'information continue Al Jazeera pour déstabiliser la région au profit d'Israël et des États-Unis selon la presse. Et puis l'émir du Koweït tente une médiation, mais pour l'instant on est plutôt dans un climat de guerre froide.
Oui, le Qatar est plutôt isolé en ce moment. La femme du Premier ministre israélien est de nouveau au centre d'un nouveau scandale, Michel Paul.
Régulièrement, on parle des frasques de Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre. Eh bien, cette fois, une série d'altercations avec le factotum de la présidence du Conseil. « Vous, les Marocains, vous mangez beaucoup », lui aurait-elle notamment affirmé. Elle aurait également appelé à son domicile au milieu de la nuit pour lui faire des remontrances. La justice a même été saisie de l'affaire. Caricature dans Haaretz, chérie, laisse-moi dormir, affirme Bibi Netanyahou, visiblement agacé à son épouse. Laisse-moi dormir, demain on doit répéter une attaque contre l'Iran.
La révolution de 2011 contre Hosni Moubarak n'a pas fini d'inspirer les cinéastes égyptiens et étrangers. Le journal Al-Ayad fait le point.
Oui, il y a eu The Square, la place, donc la place Tahrir, qui faisait partie des films nominés pour l'Oscar du documentaire, même s'il n'a pas remporté le prix, une production américano-égyptienne, et il y a aussi des films, selon le journal, italiens, hollandais, français, tchèques. Mais le film qui retient le plus l'attention d'Al-Haya, c'est Al-Hawa'et, les murs, une production égyptienne qui raconte le soulèvement égyptien à travers les graffitis. Alors un art qui était quasi inconnu en Égypte jusqu'alors, si l'on exclut les peintures traditionnelles qu'il y a sur les maisons nubiennes, des peintures qui racontent généralement le pèlerinage à la Mecque du propriétaire de la maison. Et c'est ce qui a inspiré les auteurs du documentaire qui sont justement nubiens.
Et puis Alexandre, les pays de l'or noir se ruent sur l'or jaune. C'est ce que constate le responsable du Conseil mondial de l'or.
Oui, alors selon ce responsable, les pays arabes ont augmenté leurs achats d'or de 24% en 2013. Et on est passé de 187 tonnes en 2012 à 231 tonnes en 2013. Alors le principal acheteur, c'est l'Arabie Saoudite qui a acheté 72 tonnes en 2013. Une Arabie qui occupe le 17e rang mondial en réserve d'or officielle avec 303 tonnes. Le reste de l'or va aux bijoux qui sont en quelque sorte la valeur refuge du pauvre avant même le riche, écrivent les journaux. Des bijoux en or qui sont généralement de 21 carats et que l'on vend quand on a des problèmes économiques, comme c'est actuellement par exemple le cas en Égypte, et que l'on rachète dès que les choses vont mieux.
Et puis votre photo du jour, Michel ?
Bien, c'est une photo de la Tour Eiffel dans le quotidien Haaretz, la Tour Eiffel en plein smog, avec cette légende un peu curieuse. Les Parisiens vont élire dimanche un nouveau maire s'ils trouvent le chemin des bureaux de vote.
En tout cas, une photo qui date un peu car il fait temps clair sur Paris depuis quelques jours. Merci Michel, merci Alexandre. Cette émission a été réalisée par François Porcheron, que je salue. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.